France Culture.
C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Il serait si facile de regarder ailleurs, mais on choisit de se mobiliser face à la tragédie et ce, malgré les intimidations, les militants de la flottille en route pour briser le blocus israélien de la bande de Gaza ont été visés la nuit dernière par de multiples drones. C'est encore pour ne pas fermer les yeux sur l'urgence, cette fois-ci de la crise climatique, qu'un mini sommet sera organisé aujourd'hui à l'ONU. Sans les États-Unis, on en parlera avec notre invité. On se rendra par ailleurs en Russie après la volte-face abrupte hier des États-Unis affirmant que l'Ukraine est aujourd'hui en mesure de remporter la guerre. À suivre également le refus de la France d'accorder l'asile politique aux militants écologistes Paul Watson. Et puis on rendra un ultime hommage à l'actrice franco-italienne Claudia Cardinale décédée hier à l'âge de 87 ans. Au moins 15 nouveaux morts à Gaza, notamment dans des tentes abritant des déplacés. La campagne militaire de destruction massive menée par Israël se poursuit ce matin encore dans l'enclave palestinienne assiégée et affamée, de même que sa politique visant à faire taire quiconque oserait aujourd'hui suspecter une stratégie d'anéantissement illégal et immoral orchestrée par le gouvernement ultranationaliste de Benjamin Netanyahou, ainsi que cette nuit les navires de la flottille qui entendent rejoindre Gaza pour y acheminer de l'aide humanitaire tout en dénonçant les compromissions de la communauté internationale avec le pire face à une tragédie que nul ne peut ignorer, ont été pris pour cible donc par une quinzaine de drones au total. Les précisions de Marie-Pierre Véraud.
De multiples drones, des objets non identifiés qui sont largués, des communications brouillées et des explosions entendues depuis plusieurs bateaux. Voilà ce qu'écrit la flottille pour Gaza à propos de la nuit dernière. 5 bateaux au moins auraient été attaqués au large de la Grèce. Un député polonais à bord de l'un d'eux fait état de 13 attaques sur 10 navires, dont 3 auraient été endommagés. Les gardes-côtes grecs n'ont pu confirmer ces incidents, mais la flottille continue sa route. L'une des militantes à bord parle d'opérations psychologiques qui ne les intimideront pas. Les 50 bateaux et 300 militants pro-palestiniens sont partis de Barcelone début septembre. C'est le plus important convoi maritime d'aide humanitaire pour Gaza depuis le 7 octobre. Il avait déjà été pris pour cible par des drones au large de la Tunisie. Israël refuse de laisser accoster ses navires et a déjà détourné 2 tentatives durant l'été. Les militants de la flottille pour Gaza font eux valoir qu'ils ne transportent pas d'armes et ne représentent une menace pour personne.
C'était un volcan, c'était comme un volcan en éruption.
Hier, la rupture d'une digue naturelle à Taïwan après le passage du puissant typhon Ragasa a brusquement libéré les eaux d'un lac faisant au moins 14 morts. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. La tempête, accompagnée de vents violents et de pluies torrentielles, menace désormais Hong Kong et le sud de la Chine. Décidément, le dérèglement climatique a beau provoquer des phénomènes météorologiques extrêmes toujours plus intenses et plus fréquents partout dans le monde. Lui, pourtant, n'y croit pas. Et le problème, c'est qu'il est aussi le président de la première puissance mondiale. Hier, à la tribune de l'ONU, Donald Trump a déversé tout son fiel contre les énergies renouvelables, tout en se vantant de promouvoir les énergies fossiles. Et c'est donc au grand dam, sans doute, du milliardaire de Mar-a-Lago climato-sceptique qu'aujourd'hui 118 pays, mais pas les États-Unis, défendront lors d'un mini-sommet à New York la poursuite de la lutte contre le dérèglement de la planète. Pour en parler avec nous, invité à présent de la rédaction, Damien Barbiche, directeur du programme gouvernance de développement durable à l'IDRI. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Il y a tout juste 10 ans, les Nations Unies avaient fixé 17 objectifs de développement durable, ODD, à atteindre en 2030. Peut-être déjà pour commencer, où en sommes-nous du respect donc de ces objectifs?
Bah en fait, on avait fixé il y a 10 ans, à l'ensemble de la communauté internationale, une ambition très forte, qui était finalement de lutter contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire et le dérèglement climatique, l'érosion de la biodiversité, etc. Et force est de constater qu'aujourd'hui, s'il y a une petite partie, environ disons 18% des différentes cibles qui sont en voie d'être atteintes, il y en a beaucoup qui sont en retard sur les questions de pauvreté, d'accès au logement, d'insécurité alimentaire.
Pour quelle raison? Est-ce que lorsque le développement durable donc a été conçu il y a 10 ans comme un outil de transformation profonde de la coopération internationale sur ces questions environnementales, est-ce qu'on a sous-estimé la difficulté de la tâche et peut-être la complexité donc des travaux à entreprendre dans les institutions elles-mêmes?
En fait, je pense que on s'est doté d'une ambition où les États nous ont dit il y a 10 ans, on souhaite transformer notre monde. Et en fait, on a probablement sous-estimé la difficulté que c'était pour tous les acteurs de modifier leur mode d'action, le type de politique publique qu'on devait mettre, parce qu'en fait, aujourd'hui, l'idée, c'était de dire, on doit introduire de la complexité, on doit avoir des approches beaucoup plus intégrées, où on essaye en fait de voir comment on peut développer l'agriculture en préservant la biodiversité et en prenant en compte la dimension égalité homme-femme ou autre. Et ça, en fait, ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est du dialogue, c'est de la discussion, et on n'a pas toujours les solutions, mais c'est une constante remise en question, en fait.
Ce matin même, la branche française de l'Organisation du Pacte Mondial de l'ONU publie une étude menée auprès de plus de 13 000 citoyens, 16 pays européens, pour évaluer leurs attentes en matière de développement durable. On y apprend que 80% des personnes estiment que le développement durable doit être une priorité pour l'UE. Ils sont 75% à considérer que les gouvernements, comme les entreprises d'ailleurs, devraient allouer davantage de moyens au respect de ces objectifs, donc de développement durable. C'est évidemment plutôt rassurant en termes de prise de conscience collective. Est-ce que c'est de nature pour autant à faire bouger les lignes politiques, ou pour le dire autrement, comment expliquer cet écart entre un fort soutien donc de principe d'un côté et puis une mise en application jugée très largement insuffisante de l'autre?
Elle est insuffisante, mais il y a aussi des exemples qui nous montrent que ça peut marcher. Et je pense que ce qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'elle met en avant que finalement, cette question du développement durable et des objectifs de développement durable constitue un langage commun et partagé, alors à la fois par des citoyens, mais par un ensemble de pays, par un ensemble d'acteurs qui ont dit il y a 10 ans, bah en fait, on voici la direction dans laquelle on veut aller. Et ce qui a peut-être probablement que l'enjeu, c'est de voir comment on peut s'appuyer sur des exemples de collectivités locales, de banques publiques de développement qui essayent d'intégrer ces dimensions-là dans leur politique, dans les projets qu'elles financent, pour essayer de trouver ces solutions-là. Et probablement que l'enjeu, et ce qui a été sous-estimé il y a 10 ans, c'est comment s'appuyer sur des expériences concrètes, réussies, pour démontrer qu'en fait, effectivement, il est possible de trouver des réponses à ces conflits entre des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
Vous pourriez nous en citer quelques-uns de ces exemples?
On a c'était la Colombie qui en fait qui a été le pays qui en fait avait poussé pour l'adoption des objectifs de développement durable, et en fait qui, au moment où elle a négocié son accord de paix en fait avec les FARC, a intégré les ODD en disant finalement notre ambition en fait c'est pas que la paix, mais c'est aussi de voir comment on va essayer de travailler ensemble pour lutter contre la faim, pour préserver notre environnement, etc. Et du coup, ça a obligé aussi les acteurs à se parler, à identifier les solutions à apporter à ces problèmes.
Hier, je l'évoquais en introduction, donc Donald Trump a affirmé que le dérèglement climatique était, je cite, « la plus grande arnaque jamais menée contre le monde ». Est-ce que le backlash écologique à l'œuvre aujourd'hui est à rapprocher avec partout ce retour donc des impérialismes?
En fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous m'aviez posé la question il y a un an sur l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable, je vous aurais dit, en fait, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on sent un désintérêt. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que finalement, on a certaines forces politiques, comme le président américain, mais aussi le président argentin, Javier Milei, ou certains partis d'extrême droite en Europe, comme Vox, qui s'oppose ouvertement en fait à cet agenda-là, parce qu'en fait il met sur la table une ambition finalement universelle et sur laquelle en fait il y a encore une communauté de pays qui considèrent que c'est notre langage commun à tous, une sorte de contrat social si vous voulez global. Et c'est pas anodin si lors de la récente négociation sur le financement international du développement qui s'est tenue à Séville en juin, les États-Unis ont poussé pour retirer toutes les mentions en fait de cet agenda-là. Et finalement, ils n'ont pas été soutenus par le reste de la communauté internationale. Et les pays ont préféré adopter un texte sans la première puissance mondiale, mais en maintenant ce langage-là, qui est un langage commun.
Et on restera sur cette note d'espoir. Merci Damien Barchiche, directeur donc du programme Gouvernance du développement durable à l'IDRI, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Vos pays vont tout droit en enfer.
Oui, en plus de s'être livré, donc on l'a dit, à une attaque totalement désinhibée contre les énergies renouvelables, Donald Trump n'a pas non plus manqué l'occasion hier, lors de son interminable discours, ponctué de remarques improvisées, de fustiger l'immigration et notamment le grand projet migratoire du mondialisme, selon ses propres propres termes, il est temps d'en finir avec l'expérience des frontières ouvertes. Il vous faut y mettre fin immédiatement, à trancher péremptoire le locataire de la Maison Blanche au sein d'une assemblée pour la très grande majorité circonspecte. Alors on pourrait encore s'attarder sur les attaques en règle, toujours du président américain, visant également l'ONU et sa vision générale du monde aux antipodes du multilatéralisme. Mais là, en réalité, où le locataire de la Maison Blanche aurait été le plus surprenant, c'est lorsqu'il a opéré un revirement majeur, cette fois-ci en estimant de manière totalement inattendue que l'Ukraine était aujourd'hui en mesure de remporter la guerre contre la Russie et pourrait même revenir à ses frontières d'origine en récupérant l'intégralité des territoires occupés par Moscou. Alors, la position de Donald Trump est souvent sujette aux messages, on le sait, tantôt incohérents, tantôt ambigu, raison pour laquelle la prudence reste de mise. Reste à savoir ce qui justifie aujourd'hui une telle volte-face. A-t-il définitivement perdu patience face à Vladimir Poutine? La seule façon probablement de savoir si le président pensait vraiment ce qu'il a dit aujourd'hui est qu'il replace résolument son pays aux côtés de l'OTAN et de l'Ukraine avec de l'argent et du matériel. En attendant, la Russie n'a pas tardé à réagir. Sylvain Tronchet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant de France Culture à Moscou, ce matin le Kremlin a balayé d'un revers de la main les propos du président américain Donald Trump, qualifiant notamment la Russie de « tigre de papier ».
Oui, la réponse n'a pas tardé à Moscou, hein, et de façon très inhabituelle, le porte-parole du Kremlin s'est invité ce matin dans la matinale d'une radio moscovite pour dire que Moscou était en désaccord total avec les propos de Donald Trump et notamment cette comparaison avec un tigre de papier qui a dû passablement agacer au Kremlin, rappeler l'époque où Barack Obama parlait de la Russie comme d'une puissance régionale.
Russie n'est pas un tigre, все-таки больше Россия ассоциируется с медведем.
La Russie n'est en aucun cas un tigre. Elle est plutôt associée à un ours. Il n'existe pas d'ours de papier. Poutine a décrit notre ours à plusieurs reprises dans toutes ses expressions et il n'y a rien qui soit en papier ici.
Voilà. Alors, hormis ces considérations zoologiques, Dmitri Peskov a surtout contesté point par point la charge de Donald Trump, renvoyé au rang d'homme d'affaires qui cherche à ce que la terre entière achète son pétrole et son gaz. L'économie russe est stable, a-t-il assuré. Si le porte-parole de Vladimir Poutine a mis les formes, comme toujours, a pris soin de dire que la Russie était ouverte aux négociations, il a aussi constaté que le processus de rapprochement avec les États-Unis n'enregistrait aucun résultat depuis des mois, proche de zéro, a-t-il dit. En conséquence, affirme le Kremlin, l'opération militaire spéciale se poursuit. Nous n'avons pas d'autre alternative, martèle le porte-parole qui a semblé ce matin enterrer définitivement l'embellie observée dans les relations avec Washington depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Merci Sylvain Tronchet en direct de Moscou.
Midi passé de 42 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
L'activiste Paul Watson, 74 ans, à la tête de l'ONG Sea Shepherd, grand protecteur notamment des baleines et visé par un mandat d'arrêt du Japon, espérait obtenir l'asile politique en France. Or, on l'a appris ce matin dans une décision rendue le 9 septembre dernier. Cette demande lui a été refusée par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Véronique Robert-Rod, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors ce refus étonne notamment parce qu'Emmanuel Macron en personne avait, on s'en souvient, laissé entendre, c'était en juin dernier, qu'il ferait un geste pour mettre le militant écologiste et sa famille en sécurité.
Oui, on va s'arranger, disait en juin dernier Emmanuel Macron, laissant penser que cette demande d'asile politique ne pourrait être qu'une formalité. L'OFPRA en a donc décidé autrement parce que Paul Watson ne figure plus sur la liste rouge d'Interpol qui permettait aux polices de l'interpeller dans n'importe quel pays hostile à ses activités. Dans son arrêt, l'OFPRA ne considère pas que Paul Watson pourrait être interpellé, je cite, avec certitude à l'occasion de futurs voyages. L'asile politique ne serait donc plus une nécessité, avec aussi une critique de la part de l'OFPRA des activités du défenseur de l'océan. C'est ce qu'explique Paul Watson lui-même.
Après près de 9 mois et environ 6 entretiens, on m'a dit que je n'étais pas admissible au programme et ma demande d'asile politique a été refusée au motif que mes activités dans l'océan austral étaient jugées discutables. Ils ont également soutenu qu'avec la levée de la notice rouge, il n'y avait plus de problème. Mais dans mon cas, le Japon a clairement fait savoir aux États-Unis et au Canada et à d'autres pays que, notice rouge ou non, ils veulent que je sois arrêté et extradé vers le Japon. Je ne suis pas en sécurité à l'idée de retourner au Canada ou aux États-Unis. J'ai consacré les 50 dernières années de ma vie à protéger la vie marine et à combattre les activités illégales en mer. La loi devrait être de mon côté.
Voilà, les avocats de Paul Watson sollicitent à nouveau Emmanuel Macron. Le chef de l'État peut accorder directement l'asile en lien avec le préambule de la Constitution qui date de 1958 qui stipule que nul ne peut être poursuivi pour ses idées. La décision aussi de l'OFPRA peut également être contestée auprès de la Cour nationale du droit d'asile et là la décision serait alors définitive.
Merci Véronique Robert-Roth.
Sébastien Lecornu peut-il éviter une nouvelle journée de mobilisation contre l'austérité pour la justice fiscale ?
Enquête de moyens et surtout tout soutien pour boucler un budget. Le Premier ministre, toujours sans gouvernement, reçoit depuis ce matin l'intersyndicale. Wafia Kenich, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Vous êtes à Matignon, donc, où cinq jours après lui avoir posé un ultimatum, les organisations sont arrivées ensemble, bien décidées à réclamer à Sébastien Lecornu des signes forts de rupture.
Oui, ils sont arrivés à 8, tous ensemble à l'hôtel Matignon. Les numéros 1 des organisations de salariés s'entretiennent en ce moment même depuis ce matin 10h30. Le Premier ministre est seul, lui, puisqu'il n'a pas encore pu former de gouvernement et n'a donc à ses côtés ni ministre de l'économie, ni ministre du travail. Les syndicats sont apparus combatifs à leur arrivée, plutôt souriants sous leur parapluie. Les membres de l'intersyndicale semblent confiant. Paradoxalement, le conclave sur les retraites a remis l'unité au goût du jour. La CFDT n'est pas parvenue à un accord avec le patronat malgré les compromis proposés pendant des mois. Désormais, le premier syndicat de France assume le fait de refuser un nouveau conclave sur les retraites et souhaite une suspension de la réforme. Certes, la CGT de son côté veut son abrogation, mais dans les deux cas, les deux principaux syndicats de salariés ne veulent plus négocier sur le sujet. Deuxième point d'accord fondamental, la justice fiscale, ce sujet est devenu un enjeu pour les salariés. Dans les centrales, on relaie désormais à chaque rencontre à Matignon ce sujet. Remonté à bloc par la mobilisation de jeudi dernier avec 1 million de personnes dans la rue contre le projet de budget, ils ont fait la démonstration que le sujet mobilise. Retraite, taxe Zucman, assurance chômage, pouvoir d'achat, les numéros 1 des 8 organisations syndicales se sont vus pour peaufiner leur stratégie ce matin avant leur rencontre avec le Premier ministre et devraient communiquer ensemble au sortir de ce rendez-vous.
Merci Wafia Kenich en direct de Matignon ainsi qu'à Benjamin Troncin pour les moyens techniques. Après des mois et des mois de consultations, là encore auprès de centaines d'organisations, la stratégie nationale pour l'alimentation prévue en 2023 n'a toujours pas vu le jour, raison pour laquelle 117 associations publient ce matin une lettre ouverte au nouveau Premier ministre pour lui demander d'agir et en particulier s'agissant de la viande au cœur d'un intense lobbying des agro-industriels. Je vous propose d'écouter Alexandre Kobi, responsable de la prévention à la Ligue contre le cancer, interrogé par Catherine Pétillon.
Nous, notamment, en tant que Ligue contre le cancer, on a une trajectoire de réduction de la consommation de viande rouge et de la charcuterie, puisque, on le sait, c'est lié à certains types de cancers, et notamment les cancers colorectaux. Une interdiction, ou du moins une régulation de la publicité pour les aliments qui sont trop gras, trop sucrés, trop salés, cible les plus jeunes, les enfants notamment. On demande également à ce que le Nutri-Score soit imposé de manière obligatoire sur l'ensemble des produits alimentaires. Et dernier point, on demande à ce qu'il y ait un délégué interministériel qui soit nommé pour la mise en œuvre de cette stratégie. Une stratégie, c'est pas un joli papier comme ça qu'on publie et puis qu'on oublie. Une stratégie, derrière, normalement, c'est des moyens. C'est quelque chose qui orchestre aussi tous les acteurs publics, parapublics, les associations, ce genre de choses. Et donc, qui fait aussi avancer le pays de manière coordonnée et orchestrée. Donc, c'est quand même un exercice qui est important, qui n'est pas qu'un exercice de style.
Pour terminer ce journal, donc comment ne pas rendre un dernier hommage à celle qui, de sa présence solaire, avait subjugué Visconti, Fellini, en même temps qu'envoûté Delon, Belmondo, Mastroianni. L'actrice franco-italienne Claudia Cardinale, décédée hier à l'âge de 87 ans, laisse derrière elle une carrière riche de plus de 150 films. Benoît Grossin a sollicité Jean Gilly, professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sur la place spécifique qu'aura occupée l'actrice dans l'histoire du cinéma.
C'était une femme qui n'avait pas des allures de star, mais qui se prêtait à pratiquement tous les rôles. Elle pouvait jouer avec beaucoup de simplicité les rôles les plus difficiles, jusqu'à finir par être repérée par des cinéastes comme Fellini dans 8 et demi, ou surtout, c'est le sommet de sa carrière, Visconti, qui la dirige dans Le Guépard, où elle a comme partenaire Alain Delon, qui lui ouvre en même temps une grande notoriété en France, où en plus elle est parfaitement à l'aise puisque sa langue naturelle c'est le français. C'est une actrice qui a été très présente dans le cinéma italien d'abord, dans le cinéma français ensuite, dans le cinéma américain, elle pouvait également jouer en anglais, Donc elle est un peu un emblème d'un cinéma international. Elle brille comme cela avec une émotion considérable. Et elle a réussi à s'imposer malgré un certain nombre de handicaps aux yeux de la profession cinématographique. Par exemple, cette voix rauque qu'on lui reprochait, qui ne donnait pas suffisamment de sensualité à ses personnages. Et en réalité, c'était tout le contraire, quoi. Cette voix rauque est un élément de son charme. Cela a fait que finalement, elle est devenue un repère également économique. Un film avec Claudia Cardinal, c'était un film qui était assuré d'avoir un accueil aussi bien en Italie qu'en France, quoi, parce qu'elle a un côté franco-italienne ou italo-française qui en fait une comédienne unique. Même les autres grandes comédiennes comme Sofia Loren ou Gina Lollobrigida n'ont pas atteint ce degré de sensibilité qu'elle a su transmettre dans ses interprétations.
On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi. Toujours maussade sur la plupart des régions, à l'exception d'un quart nord-ouest et du pourtour méditerranéen. Les températures, elles seront comprises entre 10 et 21 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Alison Wickrobeck. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.